La philosophie doit être dangereuse. Sinon, c'est du théâtre ou un sport de salon pour petits aristocrates en manque de sensations. Les sensations, justement, l'homme dont on va parler aujourd'hui n'en a pas manqué. On pourrait aller jusqu'à dire qu'il a vécu à leur service, subissant ses propres profondeurs, écrivant comme l'on gémit, pensant comme on hurle. Émile Cioran, né en 1911 en Transylvanie, alors Autriche-Hongrie, n'est définitivement pas un philosophe comme les autres. Lui-même a d'ailleurs longtemps réfuté cette appellation, tant il crachait amèrement sur ces prêtres de la pensée, incapables de sentir et se cachant derrière leur logique stérile, plus technicien de l'idée que véhicule du sensible. Si Cioran est aujourd'hui presque un auteur mainstream, à l'époque, dans les années 30, lorsqu'il sort son premier livre, Sur les cimes du désespoir, il est alors un véritable infréquentable. Lui a vécu sa pensée. Il n'a rien théorisé, mais il a pris le temps de coucher ses gouffres sur le papier, pour notre plus grand effroi et quelque part plaisir. Cioran, cet apatride réfugié à Paris pour fuir le régime communiste roumain, ferait passer Schopenhauer pour un mignon et parfois Dostoïevski pour un modéré. Il n'est pas de ceux dont la lecture peut vous laisser de marbre. Concernant Cioran, il y a en vérité deux camps. Ceux qui le détestent ne peuvent simplement pas le lire, pour qui il sent et sentira toujours un peu le soufre et l'abandon. Et de l'autre côté, ceux chez qui son écriture parviendra à déclencher une forme de catharsis inattendue, une amitié par transposition. Parce qu'aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est en acceptant son agonie, en montant encore et encore sur les cimes de son désespoir et en le partageant au monde, qu'Émile Cioran a réussi à se relier à lui-même et au monde. Aussi, je dois vous prévenir immédiatement. La pensée de Cioran n'est pas pour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans le désespoir des hommes, dans l'agonie de la pensée, nous allons aller jusqu'aux limites du concevable, là où la joie, l'espoir, le beau n'existent plus. Nous allons regarder le tragique humain en face. Là où nous allons, tout est froid, brut, et les illusions ne sont simplement plus permises. Nous allons tenter de plonger dans les grands fonds de l'âme humaine, là où elle se retrouve seule, face au néant. Aussi, si vous n'êtes pas dans de bonnes dispositions mentales pour recevoir des idées perturbantes et parfois très sombres sur ce qu'exister implique, je vous conseillerais peut-être plutôt de vous rabattre sur une autre vidéo de ma chaîne. Si vous êtes dans une phase difficile, évitez cette vidéo. Sauf si pour vous, la catharsis noire fonctionne bien. Pour autant, il me paraît important au dolmen d'explorer toutes les latitudes de la pensée humaine, de ses sommets à ses gouffres. Cioran y a donc tout à fait sa place. Pour les motiver, et je vous aurais prévenu, allons-y, enfilez vos masques à oxygène. Bienvenue au dolmen. Émile Cioran est un auteur particulièrement prolifique. Non exempt d'un certain talent pour le choix de ses titres, vous connaissez sûrement de nom ses classiques, Précis de décomposition, Syllogisme de l'amertume, ou son classique de l'inconvénient d'être né. Mais le livre dont nous allons parler aujourd'hui n'est pas de ce Cioran-là, car il y a plusieurs Cioran, plusieurs intensités et noirceurs d'esprit, plusieurs formes d'agonie et de cynisme. Le livre dont nous allons parler aujourd'hui est son premier, écrit en 1933 à tout juste 22 ans, Sur les cimes du désespoir. Émile Cioran vient alors de terminer ses études et, censé œuvrer à l'élaboration de sa thèse, il en profitera en réalité pour écrire ce premier livre. Mais est-ce exact de dire que Cioran l'a écrit ? Pas vraiment. Ici, subi serait peut-être plus adapté. Ce livre n'est pas une proposition, un essai ou un système philosophique, mais bien l'écriture d'une agonie, une auscultation de son âme et des profondeurs qu'il traverse. Court et riche, sur les signes du désespoir, est une ouverture sans anesthésie dans la masse sombre qui enveloppe alors son esprit. D'emblée, ce livre n'est pas une brochure publicitaire. Contrairement aux essais actuels, qui se drapent souvent dans une petite mélancolie pour mieux en sortir par le haut, il n'y a ici aucune sortie. Si vous y entrez, c'est pour y rester. Suran n'est ni magicien, ni scénariste. Il ne vous appâte pas avec quelques frissons obscurs bas de gamme. La destination est finale, et c'est annoncé dès le titre. Le désespoir est un sommet, un final. Lire cet essai, c'est descendre, descendre et descendre encore. Nos esprits, hollywoodisés, n'y sont peut-être plus habitués, et c'est ce qui peut en dérouter beaucoup. Lorsqu'il écrit ce jet, Suran affronte le premier et principal démon de sa vie, l'insomnie. Pas la petite insomnie du dimanche soir, pas celle que l'on traite avec un peu de mélatonine et un footing. La veille, pure et simple, contrainte, sans trêve. Suran ne dort plus. Il erre, parfois toute la nuit et plusieurs nuits d'affilée, dans les rues de sa petite ville de Transylvanie, Sibiu. L'insomnie est pour lui aussi terrible que magnifique. Cette période de sa vie le changera à tout jamais, l'empêchant de devenir le petit intellectuel abstrait que tout portait à faire de lui. La nuit, sans nuit, lui révélera des secrets qu'il ne pourra plus jamais oublier. Il écrit « C'est pendant ces nuits infernales que j'ai compris l'inanité de la philosophie. » Ce livre est un déversoir. Suran y regarde en face les âpres et difficiles secrets que la fatigue extrême lui souffle, comme pris d'une impulsion de lucidité froide sur tout ce que sa jeune existence implique. Brusquement, il se rend compte que vivre, c'est mourir, inévitablement mourir. Il voit les mensonges du monde, l'enfer de l'homme et le désespoir inhérent à nos conditions. Il n'a pas le choix. À ce stade, c'est écrire ou mourir, c'est extérioriser ou s'effondrer. Lui-même avouera quelques années plus tard que l'écriture de ce texte le sauva probablement de mettre fin sans attendre à ses jours. Sur les signes du désespoir est donc une série de réflexions, issues de cette veille solitaire, d'un jeune adolescent brillant et torturé dans les rues désertes d'une ville de Transylvanie, adolescent qui deviendra, à peine quelques années plus tard, l'un des intellectuels les plus influents du tout Paris bourdonnant. Mais alors, qu'a trouvé Suran dans ses errances, dans ce désespoir solitaire? Qu'avait-il tant besoin de sortir de lui? Que voit-il de si dérangeant dans ses extases solitaires? Eh bien, il y trouve d'abord une vérité, une terrible vérité, ce que l'on pourrait appeler la volonté de décomposition ou la joie de l'agonie.
Ma vision des choses, le résultat de ces veilles, j'ose dire le veille de l'esprit, mais enfin, c'est prétentieux, mais en fait, c'est un peu ça. Ce qui a fait que... Alors, Firmin était curieux. J'avais fait des études de philo et j'adorais la philosophie, et même le langage philosophique. Eh bien, cette superstition, parce que c'est une superstition, elle a été balayée par l'éveil. Parce que j'ai vu que ça ne pouvait pas m'aider. Ça me faisait pas supporter la vie, pas surtout pas les nuits. Et j'ai perdu ma foi en philosophie. C'est à partir de ce moment-là, quand j'ai vu que la philosophie ne pouvait pas m'aider, que les philosophes étaient des gens qui ne peuvent rien me dire, qui dorment bien, n'est-ce pas, comme un type, c'est des constructeurs, en fait, des esprits positifs, dans le mauvais sens du mot, j'ai cessé de pratiquer des philosophes, mais pendant mes années, pendant 3 ans d'études de philosophie, je ne lisais que des philosophes. Et j'aimais le langage, tout ça, j'aimais tout. Et d'un coup, je me trouve au milieu d'un drame, il ne me servait de rien.
L'enfer de l'insomnie. Que vous le vouliez ou non, vous vivez dans le temps, dans le monde, dans le cycle. Vous vous couchez, vous vous levez, vous prévoyez des choses, vos journées se passent, puis se terminent. Suran, lui, a un temps perdu ce luxe, celui de l'homme saint. Tout part de ses nuits sans sommeil et de l'effet violent qu'elles vont avoir sur son esprit. Elles le sortiront du temps. C'est la source de tout son malheur, le déclencheur de ces longues pages d'agonie, de toute cette méditation tragique sur l'existence. Le drame suranesque est dans la sortie violente du temps, du cours normal des choses, dont découle toute l'agonie dont nous allons faire la dissection. Lorsque l'on ne dort plus, on sent le temps passer sur soi. On ne peut plus fuir. On est seul, assis à sa chaise de bureau, accompagné par le ronronnement de la chaudière ou le cliquetis de l'horloge. Dehors, la nuit est froide. Le monde fuit, en dormant, il a bien raison. Mais nous nous sommes bloqués, bloqués face au vide. Celui qui ne dort plus se lance donc dans la plus périlleuse des méditations philosophiques. Il regarde la mort en face. Pour la première fois, il saisit distinctement qu'il n'y a plus entre lui et elle que le temps. 1 ou 2 milliards de secondes. Vraiment pas grand-chose, en définitive. Le sommeil, la nuit chaleureuse, nous protège de la réalisation de l'imminence de notre propre fin. La nuit, au fond de nos draps, nous borde dans une petite finalité du quotidien, celle du soi. Dormir nous donne l'impression que tout recommence d'une certaine façon au matin. Chaque éveil est une régénérescence des espoirs. Ne plus dormir, au contraire, c'est dissiper le brouillard entre vous et la mort, c'est déshabiller les apparences humaines. Vous êtes nu, face à votre fin, en ligne droite. Vous la fixez et elle vous fixe en retour. Il n'y a plus entre vous et elle aucun somme, aucun obstacle, aucun mensonge, aucun passe-temps. Que fait-on quand on voit sa mort en face dans les yeux? Eh bien, on réalise soudainement ce que l'être humain est au fond, en dehors de toute apparence. Un agonisant, un être perdu d'avance, avançant irrémédiablement vers sa propre extinction, personnelle et collective. On sent l'avancée du temps, horrible sentiment, celui de chaque seconde perdre un peu plus sa vie, comme si quelque part nous fuyions. Nous sommes des sabliers percés, dont toute la vie vise à faire oublier la situation tragique. L'humanité n'est qu'une grande distraction, visant à nous préserver du tragique inhérent à notre condition. Nous ne pouvons vivre heureux qu'en cachant violemment cette terrible réalité. Exister, c'est préparer sa mort, chaque instant et chaque seconde. Vous l'aurez compris, Émile Cioran n'a pas pu garder les mains devant ses yeux. La vie ne lui a pas laissé ce luxe. Et c'est là qu'arrive l'agonie, la grande agonie, celle de celui qui voit la mort en ligne droite et ne peut plus l'ignorer. Cioran écrit. À l'écart du monde et des hommes, vous vous retrouverez seul face au temps, dans un irréductible rapport de dualité. Au sein de l'abandon nocturne, le temps n'est plus en effet meublé d'actes ni d'objets. Il évoque un néant croissant, un vide en pleine dilatation, semblable à une menace de l'au-delà. Dans le silence de la contemplation résonne alors un son lugubre et insistant, comme un gong dans un univers défunt. Ce drame, seul le vit celui qui a dissocié existence et temps. Fuyant la première, le voici écrasé par le second. Il ressent l'avance du temps comme l'avance de la mort.
Et à ce moment-là, j'ai compris qu'au fond, la vision de la vie qui m'est c'était, ça ne serait pas celle de l'élan vital toujours en dilatation. C'est plutôt un élan vital qui se retourne contre lui-même.
Ben, le double phénomène d'évolution et
oui,
d'involution.
Oui, mais alors je mettais l'accent, n'est-ce pas, parce que tout de même ça explique aussi le titre de mon livre, n'est-ce pas, c'est que je suis devenu par la suite, je suis devenu sensible à l'aspect, aux aspects négatifs de la vie. Ça veut dire que, je vais même dire à un certain moment, n'est-ce pas, que la vie est tout ce qui se décompose. Ça veut dire que exactement l'envers de l'élan vital. Et je reconnais ce qu'il peut y avoir de limité, d'unilatéral dans cette vision. N'empêche qu'elle correspond à mon état présent. Enfin, c'est, pour moi, par exemple, la vision la plus juste, en fait, si on peut parler de la vie, c'est celle que le président Nathan j'ai dit. Il est évident qu'il y a plus de vérité dans Macbeth que dans n'importe quel bouquin de philosophie.
Épuiser la vie. L'agonie est un épuisement. Ne vous y trompez pas. Sioran ne dit pas que l'agonie est souhaitable. En revanche, il dit qu'elle est vérité en ce monde, que, déshabillé de tous nos artifices, la morale, l'histoire, nos petites agitations quotidiennes, nous ne sommes que des êtres souffrants, passagers, qui ne font qu'occuper leur agonie en la niant le plus fortement et le plus activement possible. On a beaucoup fait de lui un nihiliste, un penseur qui vanterait l'autodestruction et la perte de toute volonté vitale. Mais tout ceci n'est pas totalement exact. Sioran est un agonisant qui documente sa quotidienneté. Il ne la prêche pas, du moins pas à mon sens. Il la subit et la sublime. Mais à vous, lecteur intrépide, auditeur chevronné, il dit des vérités tranchantes et fondamentalement inacceptables. Pourtant, a-t-il entièrement tort ? Pour Sioran, l'homme est animé par une énergie proche de ce que l'on pourrait appeler une volonté d'agonie, fondamentalement antinomique, avec la volonté de puissance nietzschéenne, par exemple. Celle-ci, la volonté d'agonie, procède du caractère tragique et fini de toute vie. En effet, toute vie tend, inlassablement, vers sa propre finitude, dans un mouvement d'entropie inarrêtable. Or, pour Sioran, la plupart des hommes sont assez moyens, et ne peuvent supporter cette réalité sous-jacente. Alors, ils l'habillent, font tout, pour ne pas la regarder, inventent un après, un arrière-monde, ne regardent jamais la mort ou se rassurent à son sujet, etc., etc. Mais au fond, toutes ces choses sont des postures d'autruche, tout juste bonnes à camoufler un manque de courage quant à la réalité tragique de l'existence. Alors, que voit l'agonisant ? Qui arrête de s'illusionner, qu'aperçoit celui qui regarde le gouffre humain en face. Eh bien, pour Sioran, d'abord, il voit le combat, celui de la vie, qui n'est en définitive qu'un timide mammifère chétif qui se débat dans les grandes griffes de la mort et qui finira par y périr inévitablement. Il voit donc la vie pour ce qu'elle est, un interstice, que l'on prend pour notre tout alors qu'il n'est rien. Ensuite, il comprend que seuls sont heureux ceux qui ne pensent jamais. Et donc que seuls ceux qui acceptent leur propre agonie deviennent des penseurs entiers, de véritables penseurs. À ce titre, ce que nous appelons aujourd'hui les philosophes sont en grande partie pour lui des impuissants. Pour Sioran, toute philosophie procède en effet d'un certain degré de lucidité quant à l'agonie humaine. En restant en surface de l'homme et de soi-même, on ne produit que des systèmes de pensée, des jugements moraux, de petits griefs conceptuels. Rien de proche de la lave humaine. Les philosophes sont pour Sioran le plus souvent des illusionnés qui produisent des illusions sans s'en rendre compte. Celui qui veut penser, au contraire, doit plonger, consentir à l'agonie. Car ce n'est qu'ainsi que l'on devient lyrique, c'est-à-dire capable de penser des choses bouillantes. Voir l'agonie fondamentale de l'homme, c'est sortir de l'insensibilité scandaleuse dans laquelle demeure la grande majorité d'entre nous, ce qui nous empêche de penser quoi que ce soit d'envergure. À ce titre, la maladie est pour Sioran un immense vecteur de la pensée philosophique. Elle libère l'homme du monde et le met en relation directe avec le néant inarrêtable et sa propre souffrance, lui permettant l'accès à des couches d'expression nettement plus intéressantes. La maladie est un approfondissement de la pensée. L'écroulement intérieur est sine qua non pour Sioran d'un certain génie débridé de l'esprit. Sioran écrit « Combien dramatique et intéressant le processus par lequel des esprits d'abord tourmentés par des problèmes purement intellectuels et impersonnels, des esprits objectifs jusqu'à l'oubli de soi, sont, une fois surpris par la maladie et la souffrance, fatalement amenés à réfléchir sur leur subjectivité et sur les expériences à affronter. Comment pourrait-on s'adonner à la philosophie abstraite dès lors qu'on sent en soi le déroulement d'un drame complexe où se mêle un pressentiment érotique avec une inquiétude métaphysique torturante ? Et tout ceci vient d'une constatation que Sioran fait concernant notre esprit. Pour lui, l'esprit humain est profondément contraire à la vie. Votre conscience est une anomalie qui s'inscrit contre le cours organique du monde. Notre capacité de raisonnement, de questionnement, d'interrogation est l'outil de tout notre malheur en germe. C'est lui qui nous permet de saisir notre finitude tragique, l'agonie qu'est la vie, et de nous poser d'insolubles questions. Sioran s'exclame « Je suis de plus en plus certain que l'homme est un animal malheureux, abandonné dans le monde, condamné à se trouver une modalité de vie propre, telle que la nature n'en a jamais connue. Sa prétendue liberté le fait souffrir plus que n'importe quelle forme de vie captive dans la nature. » Le dramatique est dans la condition de l'homme. Développer son esprit, en le forçant à fixer la difficile réalité qu'est le monde, c'est l'éloigner du cours de la vie. L'homme est un agonisant, comme toute forme vivante, mais lui seul est capable de comprendre et de fixer cette dure réalité. L'esprit vous sort donc de la vie. Tout meurt, mais l'homme est le seul à le savoir. L'esprit est un détraquement de la vie, voilà tout. Et pour Sioran, on ne peut être philosophe qu'en poussant ce détraquement le plus loin possible, en s'éloignant de la naïveté de la vie. On ne peut prétendre penser justement et avec sincérité qu'en vivant comme l'on meurt. L'esprit est donc, oui, une magnifique calamité, un terrible instrument de lucidité. Au fond de l'agonie, il nous permet de voir les choses telles qu'elles sont. Et cette vision n'est pas faite pour tout le monde. Beaucoup, une fois qu'ils l'auront aperçue, ne pourront remonter le long du gouffre. L'agonie détruit toutes les réalités humaines. Il n'est plus question de courants moraux, esthétiques, religieux ou sociaux. Plus rien ne tient. Toutes les idées sont détruites. Toutes les croyances sont balayées. L'art devient un mensonge, la philosophie de la rigolade. Le néant engloutit tout. Seule demeure la réalité tragique de l'homme face à sa propre finitude, dans un univers infini et froid. C'en est fini des petites histoires humaines, tout est purgé. Cet exil contraint, absurde au possible, est celui auquel est condamné Sioran. Et dans cette agonie, la seule chose qui lui reste est un vertige de lucidité, qui permet à l'homme de tenir, quelque part, un peu. L'absurde est la seule passion de celui qui a tout perdu.
Moi, c'était des êtres extrêmement lucides. Et comme, je crois que c'est la lucidité, au fond, qui est la qualité éminente de quelqu'un, n'est-ce pas ? La qualité par excellence, n'est-ce pas ? C'est que l'homme qui a compris. Quand j'ai remarqué que dans la vie, il y a très peu d'êtres qui aient compris. Vous pouvez rencontrer de très grands écrivains qui n'ont rien compris. Des gens qui ont énormément de talent, ça, qui ne valent rien. Au contraire, vous rencontrez quelqu'un dans la vie, comme ça, dans un bistrot, qui est une révélation, c'est un homme qui a approfondi, qui s'est frotté au grand problème. N'est-ce pas? Et j'ai remarqué, par exemple, que sur le plan religieux, ça c'est très intéressant, les êtres les plus intéressants, c'est des êtres qui n'ont pas une formation intellectuelle achevée, n'est-ce pas, qui ne sont pas passés par l'université, etc. Donc, je tiens à affirmer cette dette de reconnaissance que j'ai envers ces êtres, n'est-ce pas?
Fixer le néant. À ce stade, vous devez vous dire, mais cette agonie, où sont ces cimes? Je ne vois ici que gouffre, malheur et désespoir. Et vous auriez raison, il n'y a pas de consolation à la lucidité. Quand on perd sa naïveté sur la vie, ses illusions, ses croyances, on perd tout. Mais dans ce terrible dépouillement, Sioran trouve tout de même un peu d'oxygène. Certainement pas au niveau de tout ce qu'il a perdu, mais disons une sorte de réconfort, un prix, une consolation ou un barreau d'honneur. La fièvre de l'infini. Une fois que l'on admet que toute l'expérience humaine n'est qu'une célébration du néant, que la vie n'existe que comme anomalie au milieu de la mort, et finalement, évidemment, que le monde n'a pas de sens et ne peut pas en avoir. On touche alors du doigt un trouble profond, unique, un vertige exquis, réservé à ceux qui vont au bout de leur agonie. Là, face à l'infini du monde froid, l'homme résout la question du sens. Il l'abandonne pour de bon. Il s'éclipse de la grande salle des hommes, remplie de chercheurs, de conteurs de fables et de scientifiques en blouse blanche. Il arrête de chercher le sens du monde, il consent à l'impossibilité de trouver quelconque raison à ce qui l'entoure. Et cet abandon lui procure une volupté démoniaque. Pour la première fois, le grand point d'interrogation est laissé tranquille, libre de raisonner aussi fort qu'il le souhaite. Personne ne tente de le restreindre, de l'interpréter ou de le nier. L'interrogation impossible berce l'agonisant, le réchauffe et l'enveloppe. Qu'est-ce que la vie? Il n'en a cure. Il connaît la mort, l'infini et le néant, c'est-à-dire tout. La vie, en effet, n'est qu'un passage microscopique, une indésirable, qui n'éclaire rien, impuissante à expliquer le grand bain sombre dans lequel elle bourgeonne et fanera, de toute façon, dans quelques instants. L'équation du monde est résolue, car abandonnée. L'agonisant arrête de chercher la réponse dans la vie et la trouve dans le néant, dans l'absence de réponse. C'est ici que Sioran a trouvé sa réponse, en fixant la limite du monde. Nous pourrions presque dire qu'il n'y a en ce monde que deux moyens de continuer à vivre. Soit être désespérément naïf, croire à toutes les histoires humaines, être instinctivement collé à l'existence, ou être stupidement héroïque, désintégrer toute naïveté et parvenir à trouver son nid dans la vision du néant. Tout l'espace entre ces deux postures est un désert de tristesse. Celui qui quitte la sûreté des fables humaines réveille sa conscience, se met à se poser mille et une questions impossibles, redéfinit sans cesse son rapport au monde. Le savoir devient son fléau et la conscience une plaie ouverte. Il ne trouvera son salut qu'en retournant d'où il vient ou en poussant son désespoir jusqu'au bout, chemin périlleux s'il en est. Comprenez bien, Sioran ne nous parle pas d'un choix. Personne ne choisit l'agonie ou l'illusion naïve, le néant ou la vie. Nous subissons ces modalités d'être nous concernant. Il est impossible de hiérarchiser prescriptivement ces visions, tant elles sont en dehors de notre pouvoir. Être aveugle ou être fou, voilà peut-être tout ce qu'il nous est donné de vivre. Si vous vous demandez dans quel camp vous êtes, il y a de grandes chances que vous fassiez partie des naïfs et grand bien vous fasse. Sioran, lui, n'a pas votre chance.
On dit que vous êtes nihiliste. Est-ce vrai ou est-ce faux? Qu'est-ce que le nihilisme?
Je ne suis pas nihiliste, je ne suis rien, vous savez, c'était difficile à dire. Je crois que j'ai des accès de nihilisme, vous savez, c'était difficile à dire. Est-ce qu'on peut dire de Bouddha qu'il est nihiliste? On ne peut pas, n'est-ce pas? On peut le dire, c'était compliqué. Je ne vois pas comment je pourrais répondre à cette question en étant tout à fait sincère. Je suis sûrement un négateur, n'est-ce pas? Mais même la négation, n'est-ce pas? C'est une négation... C'est pas une négation abstraite, donc un exercice. C'est une négation qui est viscérale, n'est-ce pas, qui est donc une affirmation malgré tout, n'est-ce pas. C'est une explosion. Est-ce qu'une gifle est une négation? Donner une gifle, n'est-ce pas, quelque chose.
C'est une affirmation.
C'est une affirmation. C'est une affirmation, mais ce que je fais, c'est des négations qui sont des gifles, n'est-ce pas. Donc c'est des affirmations. Cependant, je ne recule pas. Je n'ai pas peur de mon nihilisme, ni de pessimisme, ni quoi que ce soit. Absolument, ça m'est égal, n'est-ce pas? Il y a des côtés nihilistes, mais ça
pourquoi?
C'est pas ça.
L'ivresse de la fin. Au bout de son agonie, une fois sorti du monde humain, le jeune Émile Sioran goûte donc à une nouvelle vision, la transe temporelle. L'homme est englué dans le temps, dans la succession des instants, dans le cycle jour-nuit, mais aussi dans ses conceptions, passé, présent, futur, plan, projection, souvenir, toutes ces choses volent en éclats pour l'agonisant. Lui ne voit plus qu'une seule ligne, continue et infinie. Il transcende la temporalité. Il passe au-dessus de la succession des instants pour se précipiter dans l'intemporel. Il essaie de saisir l'infini. Contrairement à nous, qui vivons chaque seconde en pensant quelque part un peu à la suivante, lui supprime toute corrélation. Il vit chaque instant de manière absolue, comme unité, comme totalité. Dans cette sortie du temps humain, pour rejoindre le temps de l'éternité réelle, il trouve une forme de contemplation qui calme ses nerfs. Il fait dès lors tout pour multiplier ses instants de mariage avec l'éternité. Il tente d'expérimenter encore et encore ses éternels présents. Émile Sioran est pris dans sa prison intemporelle. Ne pouvant plus consentir au monde humain, il est contraint de s'y prélasser. Il sort du temps. L'histoire n'a plus aucun intérêt, en ce qu'elle n'est pour lui que répétition, selon des modalités variables des mêmes scènes, dans un éternel présent. Le passé, le présent et l'avenir n'ont plus la moindre importance. Il n'importe plus du tout pour lui de savoir ni où ni quand il vit. La seule chose qui compte est alors de se perdre dans la contemplation de l'éternité et d'y trouver un immense apaisement. Sioran écrit. L'infini vous désorganise et vous tourmente. Il ébranle les fondements de votre être, mais vous fait aussi négliger tout ce qui est insignifiant et contingent. Quel soulagement que de pouvoir, ayant perdu tout espoir, se jeter dans l'infini, plonger de toutes ses forces dans l'illimité, participer à l'anarchie universelle et aux tensions de ce vertige. Tous ceux que fascine l'infini ne se trouvent-ils pas sur le chemin du délire? Nous n'avons que faire de la normalité ou de l'anormalité. Vivons dans l'extase de l'illimité, aimons tout ce qui ne connaît pas de bornes, détruisons les formes et créons le seul culte qui en soit exempt, celui de l'infini. Vivre dans le flot de l'éternité, c'est revenir à l'instant, la seule réalité tangible. Pour Sioran, les hommes sont devenus des hommes indirects, plus préoccupés de l'avenir, du futur que de l'instant, incapables de se relier à l'infini du maintenant. Littéralement, nous vivons pour fuir la réalité du néant et de notre propre finitude approchant. Attention cependant, on est vite tenté de tirer un parallèle avec les théories très en vogue aujourd'hui autour du pouvoir du moment présent et autres philosophies orientales. Mais c'est autre chose dont Sioran nous parle. Il n'est pas question chez lui de simplement être dans l'instant comme présent, mais de détruire toute temporalité, que n'existe plus que le maintenant, écartelé de part et d'autre dans la toile de l'infini. D'ailleurs, ce n'est pas une prescription que fait Sioran. Si vous êtes dans le monde, dans le temps et dans l'histoire, restez-y, pauvre fou. Votre innocence est votre plus grande force. Mais sachez simplement qu'il existe un autre part, une agonie quotidienne, et que dans celle-ci, il est possible de trouver une beauté en contemplant l'éternité immobile. Car en haut des cimes du désespoir, si rien ne pousse, on se sent pourtant incroyablement léger. Plus rien ne pèse sur nous que le poids diffus de l'existence. Là-haut, il n'y a plus d'obligations, d'avis, de jugements ou de problèmes. Plus de vie, en somme. Tout y est silencieux. Notre être est à demi enveloppé par les limbes. Une harmonie morbide nous entoure. Vous n'avez plus rien à dire, plus personne à impressionner, plus de questions sans réponse, plus de questions tout court. Le silence devient votre dernier royaume. Ainsi finit l'ascension terrible des cimes du désespoir. En conclusion, dormez. Non, plus sérieusement. Sioran est un penseur limite, dont la pensée est une autopsie, et certainement pas une prescription ou un système. Je me doute que peu d'entre vous y auront trouvé autre chose qu'un exercice de pensée ou une exploration morbide des lamentations d'un esprit brillant. Cependant, notons tout de même que dans tout ce nauséabond assumé, Sioran a fait de l'exploration des profondeurs humaines l'essence de son œuvre, œuvre qui fait indéniablement du bien à certains. L'agonie, la tristesse, la souffrance, toutes font partie de l'expérience humaine. Les nier, c'est faire l'autruche. Pour certains, cartographier ses états mentaux et les troubles qui s'ensuivent est une manière de s'en extraire ou du moins de prendre un peu de recul sur eux. Sioran ne recommande pas le désespoir et le renoncement, car trop rares sont ceux qui seraient capables d'aller jusqu'à leur sommet. D'ailleurs, il admet volontiers que les illusions de l'agonisant solitaire sont, tout comme celles du naïf ingénu, des illusions. Si l'œuvre de Sioran vous intéresse, et si vous voulez plonger tout entier dans la philosophie de l'agonie, j'ai réalisé une conférence de plus d'une heure sur ce premier livre, Les Cimes du désespoir. J'y aborde des thèmes que je n'ai évidemment pas le temps de traiter ici. Celle-ci, comme toutes mes autres conférences, est disponible en rediffusion en rejoignant le Cercle du Dolmen sur mon Patreon, le lien est en description. Vous êtes près de 200, merci encore pour votre soutien et vos réflexions chaque jour sur cet espace. Finalement, je terminerai peut-être en laissant parler Sioran, qui conclura à merveille sur le pourquoi du comment de son écriture. Sioran écrit: si profond qu'aient été mes tourments, si grande qu'ait été ma solitude, la distance qui m'a séparé du monde n'a fait que me le rendre plus accessible. Bien que je ne puisse lui trouver ni sens, objectif, ni finalité transcendante, la multiplication des formes de l'existence n'en a pas moins constitué pour moi une occasion permanente de tristesse et d'enchantement. J'ai connu des moments où la beauté d'une fleur a justifié à mes yeux l'idée d'une finalité universelle, comme le moindre nuage a su flatter ma vision sombre des choses. Les forcenés de l'intériorisation sont capables de puiser, dans l'aspect le plus insignifiant de la nature, une révélation symbolique. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Portez-vous bien. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour ma plus grosse annonce et mon plus gros projet depuis le début du Dolmen, il y a de ça maintenant un peu moins de 2 ans. Si vous voulez être dans les premiers informés de ce qui se trame en coulisses et ce qui sortira dans 2 semaines, pouvez vous inscrire à ma newsletter, je vous enverrai un mail à l'occasion, ou me suivre sur Instagram si vous voulez un peu plus de dynamisme. Merci pour vos commentaires, pour votre soutien, pour toutes les informations, les lectures, les débats que vous avez en commentaire depuis ces 2 années, pour le nombre de messages que vous m'avez envoyés et que vous continuez de m'envoyer. Ils m'enrichissent énormément, m'ouvrent à des portes de perception, de pensée et d'existence auxquelles je n'aurais jamais cru pouvoir prétendre. Et je vous remercie pour tout ça. Je pense que ces vidéos sont une manière que j'ai de vous remercier pour les latitudes de pensée que vous m'autorisez. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je suis évidemment disponible sur Instagram. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.